Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui.
C'est bien. Moi aussi. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Joël 2, chapitre 2. Pour commencer. Sonnez de la trompette d'Ancion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages, de brouillard, il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. Il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais de pareil de génération en génération devant lui. Est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Avant, le pays était comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme de feu quand elle brûle la paille. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent des murs comme des hommes de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se bousculent pas les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des projectiles sans arrêter leur marche. Ils attaquent la ville. Courent sur les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Et devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense, et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le supporter? Seigneur, veuille ajouter ta bénédiction à la parole que je vais apporter ce matin. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Cette voix sortie du trône de Dieu, c'est-à-dire du lieu de gouvernement de Dieu, va secouer le royaume des ténèbres. Et cela ébranlera jusqu'à la défaite totale tous les pouvoirs démoniaques. Ce sera la voix du Très-Haut retentissant depuis les cieux et se manifestant sur la terre au travers des siens qui sont engagés à ses côtés. Dieu est en train de former son armée glorieuse dans toute sa puissance et dans toute la majesté que le prophète Joël décrit là dans le texte que je viens de vous lire. Qui pourra supporter ça? En tout cas pas les petits marioles qui se moquent de nous. Joël annonce une grande armée de prières, de guerres spirituelles sans précédent. C'est pas une question de prendre les armes, mais des armes spirituelles. Parce que nous vivons dans un monde spirituel. L'Éternel lève une grande armée, investie du feu, de la puissance et de l'autorité du Dieu vivant qui défie les portes de l'enfer. Voyez-vous qui ne croyez pas quand je vous parle des portes qui s'ouvrent à certaines dates? Faites comme vous voulez. C'est une armée qui porte le même manteau prophétique que celui qui est descendu sur David par la main du prophète Samuel. La maman de Samuel avait penché son cœur à une époque où le peuple d'Israël mourait de faim spirituelle et aussi il était dans la désolation. La nation et les soi-disant représentants de Dieu avaient dégénéré à cause de l'insouciance du grand prêtre Élie, pas Élie, Élie. Et le temple avait été profané par ses fils, on va dire dans Samuel, 1 Samuel 2, 12 et 17. 2 Samuel 2, 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables de très grands péchés devant l'Éternel parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Dieu avait besoin d'une personne qui crie, qui se tienne sur la brèche, comme on dit, pour réclamer la restauration, le rétablissement des principes divins. Acte chapitre 3, il est écrit que Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Nous sommes dans une situation qui est presque semblable à celle du temps de Anne et de Élie, grand prêtre corrompu, avec des fils corrompus, le temple souillé par toutes sortes d'âneries, de cochonneries. Dieu a entendu le cri de Anne, une femme. Ça vous embête, hein, vous les machos, une femme. Et dans son sein, dans le sein de Anne, Dieu a formé le réveil d'une nouvelle génération de prophètes. Et ce sont ceux qui ont apporté l'ordre de Dieu dans son peuple. Les porte-paroles de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui porte la parole de Dieu. C'est pas celui qui dit, le Seigneur me montre que tu vas voyager, le Seigneur me montre que tu vas te marier, le Seigneur me montre que l'abondance va venir dans ta maison. Non, ça c'est des... Non, non. Je vous parle de prophète, de ministre. En résultat du cri de Anne, le manteau prophétique est accordé à son fils Samuel. Et Samuel l'a transmis à David. David, la Bible dit, l'homme selon le cœur de Dieu. Bon, il avait aussi ses défauts, mais c'est un homme qui savait se repentir et se relever. Il était rempli d'une foi agissante. Il n'avait pas simplement la foi, mais d'une foi agissante. Il était rempli de la connaissance de Dieu. Il savait ce que Dieu voulait. Il avait un vrai esprit de louange. C'était un combattant de Dieu. Dieu habite dans la louange de son peuple. Je vais vous montrer ce que c'est pas la louange. Je vais vous montrer ce que c'est pas la louange. La louange, c'est pas ça. Vous avez compris? C'est pas ça! C'est de la corruption de louange. C'est du semblant de louange. Ne me dis pas, c'est une question de culture. Non! On a la culture de Jésus-Christ, la culture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ne crient pas à Dieu, ils soupirent après un réveil. Il nous faut un cri prophétique qui mettra en lumière dans les airs, sur les agissements iniques. Pourquoi je dis dans les airs? C'est un vocabulaire spirituel, excusez-moi. Éphésiens 2, 1, 4. Éphésiens 2, 1, 4. Quant à vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, nous étions aussi de leur nombre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère comme les autres. Ah, moi je pense que la puissance de l'air, maintenant on sait scientifiquement ce que ça veut dire. Tout est énergie et tout est onde. Le prophète le savait, des milliers d'années avant. Le cri prophétique mettra en lumière tout ce qui se passe dans nos villes, dans nos villages, dans nos campagnes, dans les nations. Qui résistera ? David savait que la seule manière d'affronter les forces du mal, c'était de toucher le cœur de Dieu. Je vais lire psaume 18, 7 à 8. Psaume 18, 7 à 8. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé, ses fondements, les fondements des montagnes ont vacillé, elles ont été ébranlées parce qu'il était irrité. Une fumée s'élevait de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel, il est descendu, etc. Un frère me demandait, la Bible parle de catastrophes naturelles en ce moment, même en Valais, dans le canton du Valais. Je ne sais pas si vous avez vu, mais bon, on n'a jamais vu ça avant. Hein. Vous savez, Dieu a établi que la gloire de sa dernière maison serait plus grande que celle de la première. Eh bien, mes frères et sœurs, nous sommes son habitation, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes sa maison. Et la gloire de la dernière maison de l'Éternel, c'est-à-dire la nôtre, celle qui est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, sera plus grande que la première. Dieu est en train de façonner des cœurs comme celui de David. Des cœurs qui ne crient pas par vaine religiosité d'excité patentée, ou pour obtenir ce qui leur est nécessaire. Non, mais des cœurs qui battent en synchronicité avec le cœur de Dieu. Des cœurs qui ressentent l'indignation que ressent le Très-Haut au sujet de ce monde perdu. Sa prière était si puissante que Dieu a incliné les cieux. Dieu a incliné les cieux. Psaume 9. Je vais vous lire ça. 8 à 11. Psaume 9, 8 à 11. L'Éternel règne depuis toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les montagnes, dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Et verset 14, 17, « Fais-moi grâce, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. » Retire-moi des portes de la mort afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont creusée. Leurs pieds se prennent dans les filets qu'elles ont cachés. L'Éternel se fait connaître, il fait droit, il prend le méchant à son propre siège, à son propre piège. Que du bonheur! La prière de David a incliné les cieux et Dieu est venu et sa présence a été d'une telle ampleur qu'aucun ennemi pouvait faire face. Dieu a parlé et le jugement est venu. La Bible nous dit qu'en ce moment, des trônes sont dressés dans le ciel. Et il y a un grand trône blanc, le trône du jugement, du dernier jugement. Mais avant le dernier jugement, il y a des jugements qui s'abattent sur la terre. Vous ne voyez pas qu'il y a des jugements qui s'abattent sur la terre? Vous ne voyez pas? Son feu est descendu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit déverse cette même onction. Elle est née dans le cœur de Dieu, elle descend de son trône, et les secrets, les choses que Dieu a tenues secrètes depuis des millénaires, dès avant la fondation du monde, ces secrets vont détruire même les plus grandes forteresses, les principautés et toutes ces puissances humaines de ténèbres, de mensonges. Voici le temps où le faible va être élevé, où l'homme et la femme abattus et affligés et désemparés deviendra un vaillant soldat de l'armée de Dieu. Dieu s'est choisi les choses les plus faibles du monde afin de confondre les sages. Mais c'est aussi le temps où Dieu va vomir les tièdes. Il va les vomir. Apocalypse 3:16. Vous savez ce que ça veut dire, vomir? Il va les dégobiller. Les tièdes. C'est-à-dire, oui, ils peuvent paraître bouillants parce qu'ils font du bruit, mais ils sont tièdes parce qu'ils sont inutiles. Jésus dit, cet arbre est inutile, il faut l'enlever. Oh, attends encore une année, je vais mettre du fumier, on verra l'année prochaine. Et si l'année prochaine il donne rien, tu l'enlèveras. Il y a beaucoup d'inutiles dans la maison de Dieu. Des gens qui servent absolument à rien. Des tièdes. Portent pas de fruits. Ce moment arrive, et ceux qui se lamentent sur l'état misérable de l'Église vont déclarer les jugements que Dieu amène. Amen. Merci Jésus de faire comprendre ces choses à mes frères et sœurs qui écoutent cela et qu'ils sortent de leur torpeur, de leur sommeil, de leur gnagnouserie, de leur bêtises religieuses et dogmatiques et leur formalisme et leur et qu'ils viennent à l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, qu'ils sondent le cœur de Dieu et comprennent ce que Dieu veut, et le fassent. Ô Seigneur, tu donnes les armes nécessaires à ceux qui veulent les prendre, afin qu'ils puissent faire partie de ton armée invincible. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.